bienvenue dans le rendez-vous de musique classique sur Radio Royan, rendez-vous mensuel avec De l'autre côté de la musique, une émission proposée et présentée par Michel Giardella, qui donne souvent aussi certains tenants et aboutissants à propos de compositrices et compositeurs, et la contribution aussi d'invités pour donner un certain sens à un thème qui chaque mois se renouvelle. Bienvenue aujourd'hui pour... je vais vous laisser, Michel. Déjà, je vous souhaite bien le bonjour, Michel Giardella.
Bonjour aussi.
Et votre invité du jour, le docteur Lyoté. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Pour apporter une contribution pour cette émission. Je vous laisse le soin, Michel, d'annoncer la couleur pour aujourd'hui.
Voilà, d'abord le docteur Lyoté, qui est mon voisin du haut de la colline, que nous faisons des petits coucous de temps en temps.
D'accord.
Voilà. Alors, aujourd'hui, au programme, Schumann. Thank you.
partie fondue avec Robert Schumann et son premier concerto pour piano qui donne une certaine vision d'ensemble, Michel.
Oui. Moi, j'ai tenu à ce concerto parce que la première fois qu'il a été donné, c'est avec Clara Wieck, dont on aura l'occasion de parler. C'est quand même important. C'est Clara Wieck qui a joué la première fois ce concerto pour piano. Voilà, alors on va parler de Schumann, bien sûr. Par définition, c'est le musicien romantique allemand. Poète, fantasque, dépressif et passionné, tout dans son œuvre et sa vie le démontre. Il est né en 1810 à Zwickau, en Allemagne de l'Est, à l'époque, maintenant Allemagne tout court. Et il est le dernier des 5 enfants d'un libraire et d'une femme qui est une excellente pianiste. Alors, cette vie se passe un petit peu, mais il demande quand même, intéressé par la musique, à son père de lui offrir un piano. Là, il y aura un drame familial. Coup sur coup, deux morts tragiques vont bouleverser la famille. En 1826, l'unique sœur du futur compositeur se suicide à 19 ans. Quelques mois plus tard, c'est Auguste, atteint d'une maladie de nerfs, qui succombe. Voilà, on fera quelques commentaires après.
Auguste, c'est son père.
Oui. Voilà. Ça. On peut y voir les prémices de la maladie, bon, qui emportera peut-être Robert. Enfin, on en parlera après. 2 ans après la mort de son père, Robert est envoyé par sa mère afin de suivre des études de droit. Mais ça l'intéresse assez peu. Et il est plus intéressé par les soirées de concerts. Et il le suit et il est surtout impressionné par un récital de Paganini en 1830 et il décide de sa carrière, il deviendra virtuose. C'est à cette époque que se situe une chose importante, il rencontre Frédéric Wieck, l'un des plus célèbres professeurs de piano de son temps. Celui-ci a une fille, Clara, âgée alors de 9 ans mais qui est déjà une virtuose. Et c'est en l'entendant que Robert décide de se placer sous la direction de son austère et intransigeant papa. En octobre, il s'installe chez son maître et qui le considère comme un fils et travaille d'arrache-pied. Ou plutôt, d'arrache-main. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans sa volonté de perfection, bien pour progresser, le poussera à commettre quelques erreurs. Il invente un appareil pour améliorer l'indépendance de ses doigts. Et il arrive seulement à se paralyser le méduse de la main droite. C'est du moins l'interprétation qu'il donne à une probable maladie neurologique, on ne sait pas trop. Toujours est-il qu'en 1832, son futur de virtuose s'est évaporé. Alors, nous avons quelqu'un de compétent pour nous parler de...
Oui, c'est assez mystérieux, cette histoire de paralysie du médius de la main droite. D'après ce que j'ai lu, il y a plusieurs versions, mais la plus convaincante, c'est celle, non pas d'une paralysie, mais de ce qu'on appelle une dystonie, c'est-à-dire une fixation de son médius en hyperflexion à l'intérieur de la paume. Et cette dystonie, on peut la considérer comme l'équivalent pour le pianiste de la crampe des écrivains. C'est la crampe des pianistes. Et l'intérêt de ce diagnostic, c'est d'abord, effectivement, il explique qu'il n'a pas pu après continuer sa carrière de virtuose, mais c'est qu'il y a quand même, chez ceux qui sont atteints de cette dystonie, un terrain particulier, en priorité des hommes, et en priorité des hommes anxieux et des hommes perfectionnistes. Or, c'était exactement le cas de Schumann. Et donc, il a après, quand cette dystonie s'est installée, d'après ce que j'ai lu, tenté d'y remédier avec un appareil pour relever le médius. Et puis finalement, il en a fait son deuil. Et c'est à ce moment-là, c'est peu connu, qu'il a composé une toccata, c'est l'opus 7, donc oui. C'est très précoce, oui. Qui se joue avec 9 doigts.
Ouais. Donc, voilà. Voilà, donc le premier grave problème et qui a fait dont on parle régulièrement, ce problème de Schumann. Donc, il ne s'embarque pas, bien sûr, dans une carrière de virtuose.
Forcément.
Et il va, par contre, se mettre à la composition.
Hein. Ce qui lui sera bien aussi.
Oui, finalement. Oui, oui. Mais en 1833, il a une profonde dépression qui fait que s'aggraver. Hein. Une épidémie de choléra sévit en Allemagne. Son frère Julius et sa belle-sœur meurent en octobre. Souffrant de fièvre persistante, le 17 octobre, il se sent perdre la raison et tente de se défenestrer. Est-ce un dédoublement de la personnalité, peur omniprésente de la mort? Les premiers symptômes d'une maladie mentale apparaissent. Tu veux nous dire...
Oui, effectivement, on peut dire qu'il a malheureusement commencé sa carrière de malade mental très tôt. Et avec, c'est ça qu'il faut le dire, et je crois que tu l'as souligné, une réactivité à des situations. Autrement dit, sa mélancolie, on va voir même que c'est une maladie à double forme, une maladie maniaco-dépressive, eh bien sa mélancolie, elle ne survenait jamais sans raison. Elle était toujours réactive, oui. Liée à sa sensibilité. Donc il déclenchait des accès majeurs à la suite d'inquiétudes, dont effectivement le choléra. Et il faut remarquer aussi que cette crainte de se défenestrer a été à l'origine de sa phobie des espaces élevés. Il ne supportait pas de vivre à l'étage. Il fallait toujours déménager au rez-de-chaussée. De même, avait-il peur des objets tranchants pour les mêmes raisons.
Voilà.
Une grande anxiété, qui a peut-être aussi nourri un peu aussi la musique. Alors, il y a quelque chose, un entrelacement sans doute entre cette pathologie et puis toute sa composition.
Voilà, alors nous sommes maintenant en 1834, bien sûr. Il fonde une revue qui existe toujours. Et il critique énormément Rossini, Meyerbeer en France. Par contre, il s'enflamme pour Berlioz, Chopin, Wagner et surtout Franz Liszt et en particulier Mendelssohn Bartholdy, qui deviendra son ami. Mendelssohn prend la direction du Gewandorchester en Allemagne et il sera très très lié à ce compositeur à qui il aura du mal quand même un peu à se détacher. C'est à cette époque qu'il se fiance avec Ernestine von Frick, à qui il dédie un morceau très célèbre, c'est son célèbre Carnaval.
On l'écoute.
Thank you.
ce carnaval qui était dédié à cette jeune fille qu'il devait épouser, puis ce fut un échec. Donc il va retourner auprès de cette petite fille qu'il avait connue, qui a grandi maintenant, et qui est Clara. Alors, bien sûr, il voudra l'épouser, mais ça se passera très mal. Le vieux Wieck refuse Schumann, prétextant que c'est un ivrogne. Bon, il pourra pas le prouver. Et c'est un conflit qui va durer un certain temps. Et bien sûr, il faudra arriver à ce que, bravant l'autorité du père, eh bien, il va épouser Clara Schumann. C'est vrai que pour nous, néophytes, quand on parle de Schumann, on voit toujours cette liaison formidable, ce grand amour de Schumann pour Clara, hein, parce que Clara était quand même une grande, grande virtuose. C'est elle qui plus tard allait assumer pratiquement les moyens financiers du couple par les concerts qu'elle va donner dans toute l'Europe où elle était très célèbre. Elle aura un petit problème, c'est que quand c'est un enfant qui joue, c'est toujours le succès. En vieillissant, c'est un peu moins bien. Bon, ouais. Enfin, donc elle va quand même galérer. Quant à Schumann, ça sera toujours très difficile pour lui parce que si c'est un excellent compositeur, il a été reconnu en Allemagne comme un excellent compositeur, mais un très mauvais chef d'orchestre. Hein, ça marchait pas du tout. Il bégayait, il se trompait pour les musiciens. Enfin, ça c'est en tant que chef d'orchestre, ça s'est très mal passé. Et il n'a jamais pu avoir. Il aurait aimé succéder à Mendelssohn ou Gewandhaus, et il a jamais pu succéder. Donc voilà. Quand même, c'est quand même la liaison Clara Robert a été une grande histoire d'amour. Alors bon, il a écrit quand même pour elle quelque chose d'important, c'est l'amour et la vie d'une femme, hein. C'est un cycle de 8 leaders, c'est une femme qui parle de son amour, donc je vous propose le premier. Alors je vous le lis la traduction, hein. Depuis que je l'ai vu, je crois être aveugle, où que je regarde, je ne vois que lui. Comme dans un rêve éveillé, son image flotte devant moi. Du plus profond des ténèbres, elle s'élève toujours plus claire.
Thank you.
Schumann avec l'amour et la vie d'une femme.
Voilà. C'est le titre de l'œuvre. Je voulais simplement rajouter, on n'a pas le temps d'écouter le dernier, mais le dernier, il y a donc 8 poèmes. Mmh. Et le dernier, la dernière phrase du dernier poème, c'est « Je ne suis plus vivante, je me retire en moi-même, le voile tombe, je tais-toi avec mon bonheur perdu, toi, mon univers. » Mmh. C'est un peu triste hein, quand même. Voilà. Donc Schumann va avec sa femme vont avoir quand même de nombreux enfants, il faut le dire hein.
Clara Bieck,
huit enfants
plus une fausse couche.
Voilà. Ouais. Donc c'est quand même une histoire un peu compliquée hein. Bon et Schumann donc suite au cherche un poste et on lui trouve un poste de directeur du conservatoire municipal de Düsseldorf. Or Düsseldorf est à proximité du Rhin. Alors le Rhin chez Schumann, ça a marqué quand même sa vie. La symphonie Rhénane, parce que nous sommes en 1854. Pourtant, il a eu une grande amitié avec un compositeur allemand, Johannes Brahms, qui deviendra l'ami de la famille. Mais malgré tout cet environnement, il sort de chez lui en pantoufles et après avoir traversé Düsseldorf sous la pluie, il se jette dans le Rhin. Repêché par les bateliers, il est éloigné de Clara qui entend son 8e enfant et on le conduit à l'asile d'Edenik à Paderborn, dont il ne sortira jamais plus. Alors écoute, je pense que...
Oui.
Il y a des choses à dire.
Oui, il y a beaucoup de choses à dire et il s'est dit beaucoup de choses. Alors, peut-être en résumant un peu et en donnant les opinions actuelles, je crois que Schumann, quand il s'est suicidé, quand il a tenté de se suicider, était gravement malade. Il en était conscient, puisque les jours précédents, il avait demandé lui-même à être interné, ce qui n'avait pas été accepté. Il était malade d'une façon dramatique, d'ailleurs. C'est ce que raconte Clara une fois dans le dos. Il était en permanence assailli par des hallucinations auditives. Il entendait non seulement des chants, parfois des cris, souvent, qu'il attribuait d'ailleurs, il disait souffrir des oreilles. Et en permanence, surtout les derniers temps, il avait des idées morbides de culpabilité. Il se sentait, il se considérait comme damné. Il demandait qu'on s'éloigne de lui. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, se sentant parfaitement très très mal, qu'il avait demandé des soins. Alors maintenant, d'où vient cet état dépressif aigu qui l'a amené donc à se suicider, à fuir la vie? Tout à l'heure, on l'a dit, il a eu très tôt des idées de suicide. Mais là, on pense qu'à la fin de sa vie, il était atteint en réalité de deux maladies. La première, on en a déjà dit un petit mot, c'était une maladie maniaco-dépressive, qu'on appelle maintenant un trouble bipolaire, puisque dans sa vie, on repère plusieurs épisodes mélancoliques et quelques épisodes plutôt d'hypomanie. Il n'a jamais été franchement excité, mais il était un peu, de temps en temps, un peu haut. Et ça, c'est le premier point. Donc c'est absolument actuellement admis. Mais il y a une autre maladie dont on n'a pas parlé et qui l'a tourmenté aussi énormément sur le plan moral. C'est qu'à l'âge de 21 ans, il a rencontré une certaine Christelle, qu'il a appelée plus tard Caritas, qui lui a donné une maladie vénérienne, en l'occurrence une syphilis. Et dès qu'il a été atteint de cette syphilis, il a été culpabilisé. Cette syphilis, non soignée à l'époque, bien sûr, a évolué et 20 ans plus tard a entraîné, donc dans ces années de 1850 et quelques, une atteinte intellectuelle déficitaire, ce qu'on appelle une neurosyphilis, une paralysie générale, qui explique très probablement ces troubles dont j'ai parlé, les hallucinations, son incapacité à diriger, ces troubles de la parole, son sorte de ce qu'on appelle une dysarthrie. Il avait énormément de troubles neurologiques, même des convulsions. Et c'est ce qui a amené, une fois qu'il s'est retrouvé dans cet asile, petit à petit sa déchéance et une mort au bout de 2 ans, dans un état grabataire, déficitaire, il ne mangeait plus. Donc actuellement, on admet qu'il avait 2 affections. Cela dit, il y a toujours des unicistes qui refusent et qui pensent qu'on pourrait porter un seul diagnostic. Et de ce point de vue, d'ailleurs, ils arrivent à scotomiser, à faire l'impasse sur d'autres troubles, dont en particulier, pour ceux qui ne croient qu'à l'influence de la paralysie générale, sur son évolution en dents de scie. Parce qu'il n'y a aucun doute que toute sa vie, il a oscillé entre des périodes de bas fréquentes et quelques périodes de haut.
Voilà, après les propos de Schumann, c'est dans ce qui apparaissait dans son journal, ouais. Des douleurs qui me mordent et me rongent, ouais. Un lion entier qui me déchire.
Ouais. C'est terrible. Hein. En plus, il entendait la note là en permanence.
Oui.
Hein.
Oui.
Voilà, c'était. On appellerait ça peut-être un acouphène, non, oui. Non, non, c'est non. Pas tout à fait ça. Hein.
L'acouphène, d'abord, celui qui est atteint d'acouphène, il en est conscient.
Il en est conscient.
Il en
oui.
est conscient.
Lui, il n'en était pas conscient.
Ah non, non, non,
oui.
Non. C'était une note effectivement très douloureuse.
Oui.
Et qui s'associait à d'autres bruits.
Mais d'autres hein, bruits, oui.
À d'autres
oui,
bruits, à la musique, mais à d'autres bruits. Hein. Il était torturé. Hein.
Oui, oui.
C'était une vie épouvantable.
Une vie épouvantable. Oui. On va écouter un peu son quintette qui est de date un peu de la fin de sa vie. Thank you. Tu nous m'as proposé ce morceau de musique, alors tu peux nous dire pourquoi et quel est ce morceau.
Alors ce morceau fait partie des Fantasiestücke d'Opus 12,
oui.
Et c'est un morceau qu'on traduit par rêve confus. Alors rêve confus, le terme m'a intrigué, mais surtout le morceau m'a toujours passionné. Pourquoi ? Parce qu'il est virevoltant, il est léger, il faut une très grande virtuosité sûrement pour le jouer, et c'est un morceau qui me touche beaucoup. Je pense qu'il y a une grande difficulté à vouloir associer le titre d'une œuvre et puis le morceau lui-même. Celui qui pourrait me dire que ce morceau veut dire rêve confus, c'est difficile. En tout cas, même si il l'a composé dans un moment où voulant illustrer quelque chose d'un petit peu brisé, la dextérité, la composition, c'est parfaitement clair, c'est parfaitement fait, c'est pour moi un petit chef-d'œuvre.
Voilà. Voilà, en tout cas, de belles pièces de piano à découvrir.
Voilà,
avec Schumann.
Alors, je crois qu'il faut qu'on dise un petit mot. Quelle est notre image de Schumann que nous avons suite à la correspondance qu'il a eue avec Clara, suite à l'écriture de Clara sur Schumann. Leur fille Marie a suivi, je crois, ce qu'a écrit la mère. Etc. Ensuite, il y a eu un Allemand, un nazi qui a voulu faire une version officielle de nazi de Schumann. Enfin, ça fait quand même beaucoup de choses. Et je crois que tout le monde a un peu censuré, un peu coupé, a mis des choses, a dit pas des choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette vision que nous avons de Schumann? Est-elle exactement ça? Bon, c'est quand même un peu compliqué pour savoir la vérité.
Oui, enfin, pour en revenir à la pathologie, déjà, il y a quelque chose qui est frappant quand on lit ce qui a été écrit sur lui dès le 19e siècle. Ces maladies tout à fait réelles ont été labellisées, diagnostiquées de façon extrêmement différente, hein, en fonction des époques. Par exemple, on l'a à un moment donné considéré comme atteint de démence précoce ou de schizophrénie, ce qui est actuellement absolument aberrant parce que il était au contraire extrêmement productif, ce qui n'est pas le cas des schizophrènes. On a aussi beaucoup insisté ces dernières années justement sur la productivité, la créativité des malades atteints de troubles bipolaires. Et donc Schumann est toujours présenté ces dernières années comme l'exemple d'une créativité extraordinaire. À certains moments de sa vie, hein, il le dit lui-même, il y a des années fécondes, hein, où il a énormément écrit. Voilà. Mais en même temps, on se rend compte qu'il est mort jeune. Hein, les dernières années de sa vie ont été extrêmement rempli, comme s'il était en quelque sorte conscient, comme s'il avait le pressentiment qu'il fallait se hâter, hein, et que ça ne durerait pas. Donc, quand on regarde le nombre d'œuvres qu'il a réalisées les dernières années de sa vie, il est considérable, même si, à mon avis, c'est au tout début de sa vie que je trouve qu'il a le mieux produit. Enfin, ça, c'est mon opinion.
Oui. Eh bien, on va écouter quand même une œuvre de la fin de sa vie. Bon. Hein. Écoutons le début du quintet pour piano et quatuor à cordes de Schumann.
Belle pièce
voilà,
de piano, violon.
Du quartet de Schumann.
Alors on poursuit avec d'autres évocations du compositeur, Michel.
Oui, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur ce que nous avons dit? Tu nous as parlé un peu du regard qu'on avait eu là. Tu penses qu'on a fait le tour à peu près, hein?
Oui, là, on a fait le tour, hein. Oui.
Pour la maladie,
Pour la maladie, oui. Donc, oui. Aucun doute là-dessus. Il avait deux maladies.
Deux maladies, d'accord.
Deux maladies. Oui. Bon, malheureux. Voilà. Le malheur.
Voilà. Bien.
Vous pensez, enfin, pour la question subsidiaire, docteur, qu'une maladie peut stimuler une créativité, notamment, par exemple, musicale, comme pouvait l'avoir Schumann?
Alors, ça, c'est une question qui est extrêmement débattue. Pendant longtemps, et en Occident, la mélancolie a eu un grand prestige.
Ah oui, les romantiques.
Les romantiques, même avant, on se souvient de Dürer et son
oui.
célèbre, sa célèbre gravure. Et l'idée était effectivement que la maladie, notamment ce qu'on appelait la mélancolie, qui n'est pas très éloignée de la mélancolie telle qu'on la conçoit actuellement, était une source de créativité. En réalité, actuellement, on ne pense pas. Ou plutôt, on pense que c'est vrai, mais dans le cadre, comme je le disais, de ce que l'on appelle actuellement le trouble bipolaire. Mmh. Et au cours de la maladie bipolaire, les périodes de dépression ne sont pas productives. C'est pas du tout ça. C'est au contraire pendant les périodes d'exaltation que le compositeur ou l'écrivain l'artiste. Ou l'artiste est amené à créer. Donc, de ce point de vue, le lien est plutôt en sens inverse. Mmh. En sens inverse. Voilà. Et alors, on a aussi découvert, et là, ça s'appliquerait assez bien au cas de Schumann, qu'il y a une forme de trouble bipolaire très particulier, qu'on appelle le trouble bipolaire 2, je m'excuse d'être un peu faire le savant, au cours duquel il y a bien des épisodes de mélancolie profonde, comme chez lui, mais également des épisodes d'hypomanie. Or, pourtant, cette forme atténuée, en quelque sorte, rentre dans le cadre général. Voilà. Alors maintenant, on pourrait aussi, pour argumenter sa maladie maniaco-dépressive ou bipolaire, penser à sa sœur qui s'est suicidée. Mais là, évidemment, qui s'est noyée, on n'a aucun argument. De même, on pense que son père, comme tu l'as dit, peut-être sa mère, n'était peut-être pas tout à fait équilibrée, sans compter ses enfants, dont l'un au moins a été interné définitivement. Mais là, on rentre vraiment dans le champ des hypothèses parce que on n'a aucun argument, alors que pour Schumann lui-même, on a une masse d'informations, dont son journal, qu'il tenait scrupuleusement et où il notait tout ce qui lui arrivait, tout ce qu'il ressentait. Donc ça, plus les biographes, mais là tu as dit ce qu'il fallait en penser, c'est quand même des informations importantes. Et puis j'ajouterais que lors de son séjour à Endenich, dans cette clinique où il a végété pendant 2 ans, il n'y avait pas de traitement bien entendu à l'époque, il a fait l'objet d'observations par les médecins qui ont noté, et ces notes ont été exhumées relativement récemment. Et confirme donc ce que l'on pense de cette évolution déficitaire terminale. Il a été, lors de son décès, ça se faisait à l'époque, c'était presque obligatoire, il a été autopsié, et on a découvert des lésions cérébrales qui correspondent à celles de la neurosyphilis. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucun doute.
D'accord. Ben, merci en tout cas pour cet éclairage, docteur.
Voilà. Oui, on va faire, pour finir.
Un petit clin d'œil, Michel.
On va faire. Alors, on va écouter un morceau de musique, Le Noyer. Mais il ne s'agit pas du tout de quelqu'un qui se jette dans le Rhin. Il s'agit plutôt de l'arbre. Hein, j'ai pensé que pour les gens du Royan, quelqu'un qui chante le Noyer, c'est quand même important. Alors, il a écrit Le Noyer sur l'arbre. C'est un poème de Julius Mosen. Je vous le lis. Un noyer déploie sa verdure devant la maison, odorant et aérien, il étend ses branches feuillues. Maintes délicieuses fleurs s'y épanouissent, de doux vents passent et les enlacent avec tendresse, les fleurs chuchotent entre elles, deux par deux, courbant et inclinant avec grâce leurs petites têtes pour un baiser. Elles évoquent en chuchotant une jeune fille, hantée par les songes la nuit, le jour. Quel songe ? Hélas, elle ne le sait pas elle-même. Les fleurs murmurent, murmurent, mais qui pourrait comprendre leur voix si douce ? Elles suggèrent un fiancé pour l'année prochaine ? L'année prochaine ? L'année prochaine ? La jeune fille prête l'oreille et écoute le bruissement du vent dans les arbres. Languissante et songeuse, elle plonge en souriant dans le sommeil et le rêve.
C'est beau.
Es grünet ein Nussbaum vor dem Haus. Duftig, luftig, breitet er blättrig die Äste aus. Viel liebliche Blüten stehen dran.
La dernière pièce avec le noyer par Robert Schumann, un leader
célèbre,
célèbre.
Chanté par Dietrich Fischer-Dieskau, qui est un très très grand chanteur, et Georges Demousse au piano, je crois. Voilà.
Ainsi ça s'achève cette émission. Merci beaucoup, docteur Lyoté, pour avoir contribué à donner vraiment un éclairage complet sur la carrière de Schumann, puisque effectivement un certain entrelacement entre la pathologie et puis toute cette notion de créativité et de production musicale. Et aussi merci à vous, Michel, pour cette proposition. On vous retrouve le mois prochain. À bientôt. Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.